Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonsoir à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir 19h. Ça se dispute avec, à ma gauche, l'ancien député Julien Drey. Bonsoir mon cher Julien. En face de vous ce soir, Gilles-William Golnadel. Bonsoir Gilles-William. Bonsoir. Place au débat avec vous dans un instant. Mais avant, on va faire le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
Enquête ouverte à l'encontre d'Éric Dupond-Moretti. Il est soupçonné de violence conjugale. Il a été placé en garde à vue dans la station de ski de Courchevel. Le garde des Sceaux a réagi. Il appartient désormais à la justice de faire son travail, a-t-il déclaré. Il se dit dévasté en tant que père. L'indemnité carburant versée à partir d'aujourd'hui, elle est de 100 euros. L'aide est destinée aux travailleurs modestes qui utilisent leur véhicule pour aller travailler. Selon le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, 70% des Français éligibles n'ont pas encore demandé cette prime. Et puis Catherine Colonna tacle Vladimir Poutine. Le président russe s'est exprimé aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale des victimes de l'Holocauste. Il accuse, je cite, les néo-nazis en Ukraine de commettre des crimes contre les civils. Des propos consternants pour la chef de la diplomatie française.
Merci Adrien. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 19h30. Je vous propose, messieurs, de démarrer avec ce témoignage. C'était dans Punchline il y a quelques minutes, ce témoignage d'un étudiant de l'Uni, Augustin Lavoillois. Il était sur le plateau pour réagir aux propos supposés, rien n'est prouvé, d'un professeur. Durant un cours d'histoire contemporaine à l'université Panthéon-Sorbonne, un professeur aurait prononcé les mots suivants. Si vous me disiez que vous votez Macron, Ciotti ou Le Pen, je ne vous respecterais pas beaucoup. Mais si vous votiez Zemmour, on va peut-être voir le tweet à l'antenne, eh bien je vous considérerais comme des bêtes à abattre. Je vous propose d'écouter Auguste Lavoillois, on en parle ensuite.
Il a énuméré la totalité des candidats qui étaient donc au présidentiel de 2022, en donnant son avis sur à peu près tous. Et il a tenu, la phrase en question, il l'a tenue puisque... C'est selon lui une honte qu'une personne de confession juive puisse dire que le maréchal Pétain avait sauvé des juifs français. Et quand on ne pouvait pas le soutenir. Le point de bascule du cours, c'était ces propos qui ont été... alors, a posteriori, après avoir discuté avec d'autres étudiants, on en choquait certains. Mais sur le moment, il y a eu une absence totale de réaction. Et oui, comme vous l'avez souligné, ce qui est surtout effarant, c'est de voir le silence dans lequel se mure l'université.
Alors, on va revenir sur ce silence. Donc, pour être tout à fait complet, on a contacté le ministère de l'Enseignement supérieur. Pas de réaction officielle de leur côté pour le moment. Néanmoins, ils ont dit que l'instituteur nie les faits, que l'établissement enquête et que s'il y avait des preuves, il y aura une procédure disciplinaire. Éric Zemmour a également réagi. Je le cite, un professeur qui rêverait d'exterminer les étudiants de Reconquête comme des bêtes, doit-il garder... son poste. Non, c'est pas ça. C'est un professeur qui doit-il garder son poste. Ses propos sont confirmés. Il aura rendez-vous devant les juges. Je ne laisserai personne menacer mes soutiens de mort. Julien Drey, votre réaction ?
J'en ai pas parce que là, vraiment, j'attends de voir ce qu'il en est. Parce que dans les propos du jeune que j'ai entendu, il y a deux choses. Il y a un propos, bon, même si on peut être en désaccord, caractérisant les engagements d'Éric Zemmour sur un certain nombre de choses historiques. Puis après, il y a une caractérisation des uns et des autres. Là, l'étudiant porte ça à ma connaissance. Si c'est vrai, bah, il faudra que l'université réagisse. Mais bon, je ne peux pas répondre comme ça sans éléments. Quoi.
Effectivement, il n'y a pas d'enquête en cours. En tout cas, il y a ces propos de ces jeunes étudiants de l'Uni, Gilles-William.
Moi, je les ai croisés. Ils sont allés chez vous, ils sortent de chez vous, si j'ai bien compris. Je les ai croisés, mais ils expliquent qu'ils ont déjà trois témoignages d'étudiants qui corroborent ces déclarations alléguées. Mmh. Donc ça permet d'y réfléchir. De vous à moi, je ne tombe pas des nues. On sait ce qui se passe à l'intérieur des murs des universités françaises d'aujourd'hui. Déjà même de mon époque, de celle de Julien Drey, déjà le gauchisme était déjà très implanté dans les universités et ça n'a pas été en s'améliorant, si vous voulez. Donc dans ce cadre-là, et sous les réserves évidemment d'usage de la présomption d'innocence, à laquelle je tiens particulièrement, mon imagination est impuissante à vous décrire la réaction médiatique si, par une hypothèse intellectuelle hardie, un professeur avait dit si quelqu'un vote Mélenchon, je le considère comme une bête à abattre. Il y aurait Libération, Le Monde, Télérama et tout le reste. Mais encore une fois,
tous vos amis.
Pardon ?
Tous vos amis.
Tous mes amis.
L'audio-service public.
Et j'oubliais l'audiovisuel de service public. Et effectivement. Mais encore une fois, il y a une certaine hardiesse dans cette hypothèse. Donc il y a deux choses. Il y a le fait effectivement, et ça, alors très sincèrement, c'est plus que courant qu'un professeur fasse état de ses propres idées pour essayer d'influencer les jeunes. C'est même tellement massif qu'on est dans un système presque de décérébration. Et puis, d'autre part, alors là, on atteint les sommets si, effectivement, on considérait que, sous prétexte de voter pour quelqu'un, on deviendrait une personne à tuer. Bon, donc, la suite, au prochain numéro, on verra.
C'est vrai, Julien Drey, qu'on imagine que si ça avait été une personne d'extrême gauche, la presse aurait réagi davantage.
Le raisonnement de Gilles William est toujours pareil. Si les autres avaient fait, ça aurait été dramatique. Donc, ça me permet d'en rajouter contre les autres. Et donc de régler le problème de ses ennemis personnels, puisque maintenant c'est quasiment une guerre personnelle qu'il livre, je le suis avec ses tweets, contre l'audio service public. Hein,
c'est vrai,
vous les appelez.
C'est vrai, bon, c'est, voilà. c'est un de mes combats favoris.
Voilà, et une forme de libération pour lui, nécessaire. Bon, moi, si vous voulez, c'est vrai que pendant un temps, dans les universités françaises, les courants idéologiques qui étaient dominants, mais qui était dominant dans la société aussi, qui était plutôt des courants de gauche, le corps enseignant était plutôt de gauche, mais le respect de la laïcité, le respect du débat, était quand même une des caractéristiques principales. Il n'y a que dans une université où on ne débattait pas beaucoup, si je me souviens bien, dans le centre de Paris, et où c'était assez difficile d'y aller, même distribuer un tract, si vous voyez laquelle je veux dire. C'était Assas. Bon, tous les autres, ça débattait. Voilà, alors on pouvait être en désaccord, pas en accord, mais ça c'est le principe même des universités. On n'est pas... Faisons par ailleurs une distinction entre l'université, le lycée et le collège. Dans l'université, on est à un niveau où on a en face de nous des adultes, voilà, et donc le débat, il a lieu. Voilà. Mais après, le professeur, il assume un certain nombre de choses. Moi, j'ai été professeur, j'assumais un certain nombre de choses, et je débattais dans mes amphithéâtres avec les étudiants en le respectant. Et quand je corrigeais des copies, je jugeais sur le fond, et pas sur le fait que ça me plaisait ou pas, par rapport à ce que je pensais. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que j'attends de voir ce qui va se passer. Bon, soit il y a les preuves formelles que l'enseignant a dit qu'il faut abattre, etc. Et tout. Bon, ça c'est pas acceptable pour un enseignant. C'est pas acceptable dans le débat politique déjà en général. C'est encore moins acceptable à l'université. Voilà. Soit il l'a pas dit. Et alors peut-être qu'il faut attendre de voir. Quoi. Voilà.
Mais je suis un peu déçu. Je croyais que Julien Drey allait dire que de mon temps, de notre temps. Bon, il y avait effectivement...
On n'a battu personne.
Mais il y avait une certaine liberté. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, à l'intérieur d'un amphithéâtre, vous aviez des professeurs qui n'étaient pas forcément d'extrême-gauche. Loin s'en faut. Bien. Maintenant, il y a une dérive totale au niveau même de la liberté de penser, puisque vous avez des intellectuels qui ne sont pas forcément extrêmement à droite, mais qui sont interdits d'université. Alain Finkielkraut ou Madame Badinter Julien va m'aider, l'épouse de Lionel Jospin,
Sophia Gazinski
voilà. C'est pas l'extrême, ne peuvent même plus aller s'exprimer parce qu'elles ne...
C'est-à-dire qu'une liberté de conscience et d'opinion qui est en danger aujourd'hui
Si vous avez le sens de l'euphémisme, cher ami, la liberté de conscience et la liberté d'expression sont plus qu'en danger. Je pense qu'elles sont pratiquement interdites dans certaines universités françaises. Je pense que c'est difficile de le nier. Et puis, regardez la dérive de l'UNEF. Il suffit. L'UNEF, du temps de Julien Drey, c'était une organisation très à gauche, etc. Maintenant, la présidente de l'UNEF, au moins à Paris, je crois qu'elle est voilée, et ils organisent des camps interdits aux Blancs. On voit quand même une certaine involution.
Liberté de conscience et d'opinion en danger, Julien Drey, dans nos universités.
Et c'est très compliqué, parce que sur le fond, on a plutôt des universités qui travaillent beaucoup et où le débat idéologique s'est beaucoup éloigné de ce qu'il était auparavant. Voilà, moi, je constate, si vous voulez, même l'activité militante que j'ai connue, puisque je fais référence à la grande UNEF, qu'on avait refondée, l'activité idéologique, le débat idéologique, le débat contradictoire, et même la formation, je dirais, politique de la jeunesse étudiante d'aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec ce que nous, on a connu. Nous, on avait, il faut être honnête, une jeunesse qui était très politisée, très engagée, très investie. Alors ça plaisait ou ça plaisait pas, mais ça existait. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Alors après, ce qui se passe, c'est qu'on a des petits noyaux très activistes. On a deux choses. On a quelques petits noyaux islamistes dans quelques facultés qui font régner une forme de terreur par rapport aux étudiantes, notamment, qui refusent de porter le voile. Ça existe. Bon, même si c'est très circonscrit à quelques universités, j'insiste là-dessus. Dans le reste, une forme de liberté. Et puis après, il y a une autre minorité qui, ces derniers temps, s'est distinguée par, effectivement, des actes de censure extrêmement violents. Et ça, ce n'est pas acceptable. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. On n'est pas de gauche quand on censure. On n'est pas de gauche quand on interdit la liberté de penser. La gauche, c'est le combat idéologique. Ce n'est pas d'aller pas envahir, empêcher de parler, etc. Et tout, ce n'est pas vrai. Ça veut dire qu'on est faible sur ces arguments et qu'on veut imposer par la dictature... La fameuse dictature du prolétariat de Karl Marx, comme dirait l'autre, mais c'est pas ça. Mmh. Moi, je trouve que, voilà, c'est pas acceptable. Voilà. Alors, donc, ces minorités agissantes, je le sais, parce que, je vous dis une chose, je suis pas certain, moi, qu'elles ne seraient pas, si j'allais faire un, moi, j'en fais plus, c'est plus de mon âge, mais si j'allais faire des débats dans les universités, je suis pas certain de ne pas être pris à partie par une extrême gauche que je connais, qui me traiterait de vieux réformiste pourri, ayant franchi
la ne garantis pas votre intégrité physique.
Bon, c'est pas grave, à mon âge. C'est pas grand-chose.
Tout de même.
Allez, en tout cas, on suivra de près cette enquête pour voir si ces propos, effectivement, ont bien été tenus à l'université Panthéon-Sorbonne. Je souhaitais vous entendre également ce soir sur ces chiffres de l'immigration. Donc, ils ont été dévoilés par le ministère de l'Intérieur, alors que le projet de loi immigration, justement, arrive, ce sera mercredi prochain, sur la table du Conseil des ministres. Alors, ces chiffres, ils sont en hausse, globalement, 154... 1597 demandeurs d'asile, c'est 16,5% en plus qu'en 2021. Les premières demandes d'asile, elles, ont augmenté de plus 31,3%. On a également, côté des expulsions, des hausses également, 15 396 expulsions d'étrangers, plus 15% par rapport à 2021, 3615 expulsions de délinquants étrangers. Alors, des chiffres en hausse, on le voit, malgré les propos tenus et les promesses d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il révèle, ces chiffres, une pression migratoire aujourd'hui qui n'est plus du tout gérée, tenue par les autorités, Gilles William ?
Malheureusement, oui. Et quand vous parlez de pression migratoire, une nouvelle fois, vous êtes dans l'euphémisme. Ces chiffres-là sont énormes. Et il s'ajoute à une situation d'immigration qui est déjà plus qu'excessive. Donc, pardon de le dire, c'est pas de la provocation. J'essaye de chercher le mot le plus juste. Le mot plus juste, c'est un phénomène invasif contre lequel l'État français ne peut mettre et que l'Europe, finalement, enfin une partie de l'Europe, en tous les cas la communauté européenne, en tous les cas la Commission européenne, accepte. La réalité, elle est là. Et je vais vous dire, j'ai du mal à comprendre, je le dis. Alors, je ne veux pas caricaturer ma propre pensée. C'est pas la même invasion que l'invasion des troupes de Poutine, en Ukraine. Il n'en demeure pas moins que j'ai du mal à comprendre quelqu'un qui a à cœur la souveraineté des frontières de l'État ukrainien et qui se moque comme d'une guigne de la souveraineté des frontières françaises. Il y a quelque chose qui m'échappe dans le raisonnement, mais je ne demande qu'à comprendre.
Alors, il y a deux choses. D'abord, William intelligemment a compris que le mot invasion était quand même difficile, alors il l'a contourné habilement. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une invasion. Je pense qu'il y a une pression migratoire qui est forte, mais qui n'a rien à voir avec une invasion, et c'est pour ça que je n'emploie pas ce terme-là. D'autant que quand on regarde le rythme, il faudra vous et moi, on ne sera peut-être plus là hein, quand on sera envahi. Donc ce n'est pas, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, je pense, parce que ça, ça sert à faire peur. Ça, ça justifie derrière la grande théorie que je connais du grand remplacement, etc., qui est quand même plus...
Qui n'existe pas, selon vous ?
Non. Non, je ne pense pas que la France est en train de se faire remplacer. Voilà, je pense qu'il y a une pression migratoire, je pense qu'il y a des tensions très fortes, je pense qu'il y a une, des choses qui ne sont pas contrôlées ou plus contrôlées par les États, et ça, ça pose problème, mais on n'est pas dans un grand renversement. Je minimise pas les problèmes en disant ça, j'évite d'affoler mon pays en lui disant que ça y est, il va disparaître. Je ne crois pas que la France va disparaître, voilà. Et qu'elle est au bord de la disparition, comme certains voudraient le dire. Voilà. Après... Dans les chiffres, il y a quand même deux choses qui expliquent aussi un peu cette pression nouvelle. C'est qu'il y a deux conflits majeurs. La chute de Kaboul, qui a joué quand même, qui explique d'ailleurs l'afflux massif de migrants afghans. Ça veut dire qu'on a très mal géré ce qui s'est passé en Afghanistan. Et on en paye évidemment à chaque fois les conséquences. Deuxièmement, le conflit en Ukraine. Même si, dans les chiffres, les demandeurs d'asile en France ukrainiens sont assez faibles, parce que la plupart... sont restés en Allemagne.
En tout cas, il y a des conséquences. C'était une demande d'Emmanuel Macron. On va entendre le maire de Saint-Brévin. Réagissez avant.
Pardon de le dire. Moi, je persiste et signe sur le terme d'invasion, même si je dis que ça n'est pas la même. Ça n'est pas une invasion armée, par exemple. Mais des populations massives qui entrent sur un territoire... alors même que la majorité des citoyens de ce territoire considèrent ce phénomène comme un phénomène particulièrement négatif, j'ai un problème de vocabulaire si ça n'est pas une invasion. C'est une forme d'invasion.
Et vous pouvez très bien envoyer le mot fini. Pression migratoire, qui explique bien les choses, sans employer un mot qui renvoie à des choses dans l'histoire que vous êtes vous-même obligé de corriger. C'est pas de la même nature, c'est pas la même chose. Donc vous voyez bien que l'utilisation du mot, elle est idéologique là.
Je compare pas dans l'histoire, je compare avec l'actualité ukrainienne. Je vais pas dans l'histoire.
Non, l'actualité ukrainienne, c'est une guerre avec quelqu'un qui envahit militairement un pays.
Ça s'appellera toujours la France, mais ça ne sera évidemment pas la même. Ça, l'étiquette ne changera pas, mais ça n'est pas la même. Quant au grand remplacement, moi, je ne crois pas au grand remplacement si c'est une théorie complotiste où on dit qu'il y a je ne sais pas quelle société secrète qui organise les choses. Pas du tout. Mais par contre, des remplacements, pardon de le dire, là, je vais encore avoir un problème de vocabulaire. Dans le 9-3, par exemple, ce sont bien des musulmans qui ont remplacé les juifs. Ça, j'aurais encore un problème de vocabulaire si vous ne tolériez pas ce mot de remplacement-là.
En tout cas, dans les zones rurales.
Voilà, je veux dire, mais on peut regarder dans les départements, parce qu'il y a des autres endroits, les choses ne sont pas passées de la même manière.
Il y a d'autres endroits où il y a des juifs qui remplacent
les musulmans. Non, parce qu'il y a beaucoup de juifs qui sont, vous savez comme moi, je ne veux pas... Ramenez pas les juifs là, s'il vous plaît.
Parce que excusez-moi, dans le 9-3...
Dans le 9-3, il y a effectivement une pression qui s'est exercée. Il y a effectivement des communautés juives important pour une partie est partie en Israël.
Oui. Et pourquoi ?
Parce qu'il y avait la montée de l'antisémitisme. Voilà. Donc ce n'était pas un complot.
C'est
pas un complot.
Je l'ai dit moi-même.
Bon, donc c'est pour ça que les mots, d'après moi, ont un sens et une valeur. Et employer des mots mal nommés quelque chose, c'est créer un mal supplémentaire. Voilà. Donc je pense que vous nommez mal les choses. Moi, je vous dis... Avec pression migratoire, j'ai dit l'essentiel. J'ai dit, il y a une pression migratoire. Et cette pression migratoire, elle crée des conflits, elle crée des tensions, et elle même devient insupportable dans un certain nombre de départements. C'est clair, c'est net et c'est précis.
Et des tensions, notamment dans les zones rurales, comme à Saint-Brévin-les-Pins. C'était une demande d'Emmanuel Macron, justement, d'accueillir plus de migrants dans certains villages ou villages côtiers. À Calac, en Bretagne, face à la colère des habitants, cette idée a été abandonnée. À Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, le débat est toujours vif. Écoutez le maire de la ville.
Je pense pas que l'État arrêtera ce projet.
Pourquoi ?
Je crois que c'est un projet qui est au niveau national, où il faut multiplier en fait les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ils disent qu'ils ont gagné à Calac et qu'ils vont augmenter la pression sur la commune de Saint-Brévin.
Alors ça, c'était une idée du chef de l'État. Il l'avait dit en septembre dernier. Est-ce que, selon vous, ça permet à la fois de faire revivre certains territoires dépeuplés et en même temps permettre un meilleur accueil des migrants ? C'était l'argumentaire du chef de l'État, Gilles William.
Non, mais écoutez, moi, je ne vais pas... Ce jeu-là de déplacer... Plutôt que d'empêcher, justement, le phénomène migratoire, de le déplacer de tel endroit à tel endroit, ne m'intéresse pas. C'est encore un faux semblant. C'est une ruse. Alors moi, si j'habitais Saint-Brévin, près de Saint-Nazaire, ou près de, dans un endroit dans un endroit magnifique, paisible et pacifique, si j'avais une maison là-bas, vous voyez, je vous mentirais en disant que je serais d'un enthousiasme particulier si on m'annonçait l'arrivée d'une centaine de migrants, parce que parfois, ça n'est pas synonyme de tranquillité. Donc non, pour moi, c'est un système qui ne me conviendrait pas.
Julien Drey.
Oui, mais vous ne pouvez pas d'un côté dire qu'il faut chasser l'immigration clandestine et de l'autre côté dire qu'il ne faut pas ouvrir des centres d'accueil pour pouvoir justement les mettre en rétention et pouvoir après les raccompagner dans les frontières. Puisque vous savez comme moi que même si on... Et ce que je souhaite d'ailleurs, qu'on change la législation pour aller plus vite, il y aura quand même besoin de places dans un certain nombre de rétentions. Mmh. Parce que si vous n'avez pas des centres de rétention, à ce moment-là, vous laissez en liberté. Et si vous les laissez en liberté, vous avez donc tout ce que vous dénoncez, c'est-à-dire des OQTF un peu qui commettent un certain nombre de délits, des camps qui se montent à toute vitesse, etc. Donc il faudra trouver des équilibres, des compensations peut-être pour les communes, mais il faudra bien trouver un moyen de pouvoir augmenter le nombre de places pour pouvoir avoir une politique efficace. Mais attention, il ne s'agit pas de réimplanter les populations immigrées. Là, hein. C'est pour ça qu'il y a une confusion dans les propos. Qu'aujourd'hui, un certain nombre de territoires de la République soient complètement abandonnés. Et comme ils sont abandonnés, on propose des projets d'installation à des familles qui voudraient justement contribuer à réanimer la vie de ces communes. Ça, c'est une chose. Mmh. Dans ces cas-là, ce sont des familles qui sont en situation régulière, qui ont des enfants, qui ont des travaux, qui ont un travail, etc. Là, c'est juste augmenter le nombre de places en centre de rétention. Le danger, c'est quoi ? Le danger, c'est que si on n'arrive pas à avoir un peu plus de places dans les centres de rétention, on va mettre tout le monde dans les mêmes centres. Et ça sera insupportable.
J'ai du mal à comprendre pourquoi on réimplanterait à la campagne des familles et des gens qui ont déjà un travail ailleurs.
Et parce qu'il y a des gens qui... Parce que
non, mais ça m'échappe, ça.
Ben non, parce que comme vous avez de plus en plus de gens qui vivent de télétravail, que vous avez une évolution du travail qui existe aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir dans un certain nombre de petits villages la capacité d'accueillir. Et d'ailleurs, quand ça s'est fait, il y a eu des expériences qui ont été faites, qui sont très bien passées. Bon, il ne s'agit pas d'amener tout le... Voilà, mais il y a des projets de vie, des projets de vie qui se construisent, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, mais qui n'est pas stupide.
Sous cette réserve express... que ces gens-là, s'ils sont en situation régulière, qu'ils ont un travail, qu'ils peuvent faire du télétravail ailleurs, je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais.
Alors en tout cas...
Je vous signale qu'il y a toute une série de territoires aujourd'hui qui ont des problèmes de récolte et d'ouvriers agricoles, et qui sont obligés d'aller...
Alors justement, les métiers en tension, c'est une vraie question, puisque hausse historique également de l'immigration liée au travail, plus de 320 000 premiers titres de séjour, soit plus de 17% par rapport à 2021. Je le disais, le projet de loi immigration, il arrive sur la table mercredi prochain au Conseil des ministres. Il prévoit notamment de créer un titre de séjour d'une durée d'un an pour les travailleurs en situation régulière dans les métiers en tension. C'est une demande récurrente de la gauche, Gilles William. Quand on voit la hausse de ces chiffres de l'immigration...
C'est pas une demande de la gauche. C'est une demande des employeurs qui n'arrivent plus à trouver d'employés aujourd'hui.
Une demande qui répond aussi à une demande de la gauche.
Attendez, les tensions sur le marché du travail, ce n'est pas la gauche. Mmh. C'est une réalité. Ça n'a rien à voir avec la gauche ou la droite. C'est une réalité. Vous avez des dizaines de restaurateurs qui disent qu'ils sont obligés de fermer un ou deux jours supplémentaires parce qu'ils n'ont personne. Pas simplement pour la plonge, même pour servir, même en cuisine, pour cuisiner. Voilà, vous avez d'autres. Je peux vous dire que la RATP, aujourd'hui, par exemple, recherche plus de 500 chauffeurs. Ils n'arrivent pas à trouver. Voilà.
Mais du coup, est-ce que, quand on voit la hausse de ces chiffres, est-ce que c'est une bonne idée, un risque d'appel d'air de...
Mais c'est encore un faux semblant.
C'est
du en même temps macronien en disant, bah oui, comme je vais être méchant et que je vais en empêcher de rentrer pour faire plaisir à ma gauche, je vais être gentil puis je vais en faire... Bah, voilà. Et on se félicite aussi qu'il y a de nombreux étudiants qui arrivent, sauf qu'on sait que celle qui a tué la pauvre Lola, elle était censée être étudiante aussi. Hein. C'est facile de se dire étudiant. Non, tout ça, ce sont des faux-semblants. Moi, je trouve que... Je souhaiterais qu'il n'y en ait aucun qui rentre. Alors, c'est vrai que le capitalisme, là où Julien a raison, mais c'est pas depuis ce matin 9h. Mmh. Le capitalisme, depuis longtemps, de toute façon, c'est des gens, Lénine disait, qui vendraient leur corde pour se pendre eux-mêmes. Ce sont des gens qui n'ont pas, ce sont des gens qui n'ont pas de pays. Contrairement à ce que Marx disait, c'est pas les prolétaires qui n'ont pas de patrie. Ce sont ces gens-là. Vous comprenez? Et les prolétaires, ils n'ont même pratiquement que ça.
On va marquer une très courte pause, Julien. Malheureusement, je suis obligé de couper. On a déjà débordé. On va revenir sur ces mairies qui vont fermer le 31 janvier pour s'opposer à la réforme des retraites. On aura votre avis dans un instant. A tout de suite, restez avec nous. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Ça se dispute, bienvenue si vous nous rejoignez et vous faites bien autour de ce plateau. Julien Drey, Gilles, William, Goldnadel débattent sur l'actualité. Dans un instant, on va revenir sur ces mairies qui ont décidé de faire grève le 31 janvier. Mais avant, le rappel des titres avec vous, mon cher Adrien Spiteri.
Un comité de l'OMS se réunit ce vendredi. Objectif statué sur la gravité de la pandémie de Covid-19. Ils doivent déterminer si elle mérite encore le niveau d'alerte maximal. Le patron de l'OMS se dit toujours préoccupé par la situation dans de nombreux pays. Près de 7000 amendements déposés à l'Assemblée nationale sur le projet de réforme des retraites. Ils se concentrent principalement sur l'article 7 du projet de loi. Il prévoit le report de l'âge légal de départ à 64 ans. La commission des affaires sociales se penche sur la réforme à partir de lundi. Et puis un astéroïde a frôlé la Terre il y a quelques jours. Information de la NASA hier soir. À son point le plus proche, l'astéroïde de la taille d'un camion se trouvait à 3600 km de la Terre. Dans tous les cas, il se serait désintégré en grande partie dans notre atmosphère.
Merci Adrien. Un prochain point sur l'actualité, ce sera à 20h. Je vous le disais, on va revenir sur ces mairies qui vont fermer le 31 janvier pour s'opposer à la réforme des retraites dans un instant. Mais avant, des centaines de personnes ont pris part aujourd'hui aux obsèques du sacristain tué dans une attaque à la machette. C'était mercredi, on en a beaucoup parlé, contre deux églises d'Algeciras. C'est au sud de l'Espagne. Un prêtre a également été grièvement blessé. Alors, côté enquête, eh bien, elle se poursuit. Un acte terroriste mené par un loup solitaire, selon les autorités, même s'il n'a jamais été dans le radar pour radicalisation. On le rappelle, c'est un Marocain de 25 ans qui portait une djellaba au moment des faits. Écoutez ses réactions sur place après ce drame.
Je suis le curé de la paroisse ici, dans le centre-ville. Et la coexistence avec le monde islamique a toujours été très bonne. Et elle l'est. Nous avons toujours eu une bonne entente.
C'est une chose commise par une personne qui se revendique de l'islam, qui n'est pas pardonnée par Dieu et qui n'est pas une personne musulmane, parce qu'une personne musulmane ne ferait pas cela et ne le fera pas.
On a d'autres réactions également qui ont été recueillies, mais cette fois par nos confrères du Parisien, des réactions qui contrastent avec ce qu'on vient d'entendre. On a un problème de vivre ensemble à Algérisas. Peut-on lire dans ces témoignages, Gilles, William, Goldnadel, le cœur du problème, il est là, cette question du vivre ensemble, selon vous, après ce drame ?
Et d'abord, je m'inscris en faux par rapport à ce que vous avez dit, comme quoi on aurait beaucoup parlé de cette affaire-là. Peut-être qu'on en a beaucoup parlé
sur CNews.
Ah oui, en d'accord. Tout
cas, voilà, c'était dans.
Pour moi, parce que justement, pour faire sourire Julien Drey, même si c'est un sujet peu souriant, j'ai pointé le fait que sur France Inter, alors même qu'on savait exactement ce qu'il en était, il y avait même eu un article dans Le Monde où on disait que c'était une personne d'Angelaba. Ils ont annoncé qu'il y avait eu une attaque contre une église, mais je vous mets au défi de trouver que c'était un Marocain d'Angelaba. Par hypothèse intellectuelle, encore une fois, audacieuse, il s'agit de quelqu'un d'ultra-droite, je peux vous dire que vous auriez eu son nom et son âge. Hein.
Donc, ce silence que vous dénoncez régulièrement, vous le comprenez comment ? Vous l'expliquez ?
Ah non, mais je n'ai aucun doute. D'abord, mais il n'y a pas un jour que Dieu fasse où, y compris en France, il n'y ait pas une église qui soit attaquée. Et les chrétiens dans le monde sont des populations extrêmement persécutées, notamment au Proche et au Moyen-Orient. La réalité, elle est là. Alors, j'y vois à la fois, bien évidemment, une détestation particulière de la religion chrétienne par les islamistes, mais la passivité que je condamne, et le silence au-delà, évidemment, de la crainte obséquieuse de l'islamisme. C'est aussi une sorte de mépris pour l'Église en obsolescence, pour la religion des vieux blancs. Je pense qu'il y a aussi, si vous voulez, ce mépris. Donc, tout ajouté, je vous avoue que je n'arrive pas à comprendre encore que lorsqu'on est humaniste ou lorsqu'on se prétend humaniste, on ne soit pas révolté, on ne le dénonce pas haut et fort. Il y a quelque chose qui m'échappe quand même.
Julien Drey, ce manque de révolte après ce drame, cet attentat contre une église, un sacristain qui a été tué, un prêtre grièvement blessé. Il y a eu effectivement, vous le rappeliez, en France, des incendies devant des églises, les chrétiens persécutés dans le monde, on a eu les derniers chiffres. C'est pas pareil, effectivement.
Non, ce que je veux dire par là, on ne sait pas encore. Il y a effectivement quelque chose qui est de plus en plus, qui est très inquiétant, c'est qu'il y a eu plusieurs églises ces derniers jours qui ont été brûlées. Pour l'instant, les enquêtes n'ont pas permis de savoir de quoi il s'agissait et qui en était responsable. Et d'abord, c'est évidemment condamnable et insupportable. Moi, je ne suis pas dans un anticléricalisme historique qui ferait que la religion catholique est l'ennemi éternel qu'il faut toujours combattre. Je pense que bon, il y a eu à un moment donné des nécessités et qu'elle n'a pas toujours joué un rôle positif dans l'histoire, mais les choses ont maintenant largement passé. Et donc, elle a la liberté de culte et la liberté pour les chrétiens dans le monde de pouvoir croire et pratiquer leur foi. Pour moi, elle doit être totale et il n'est pas acceptable que dans tel ou tel pays, ils soient persécutés. Et c'est vrai qu'on a fermé les yeux parce qu'on n'a pas voulu gêner un certain nombre de grands courants idéologiques parce qu'on a peur de leur radicalisation. On a tort. Parce qu'à chaque fois qu'on leur fait une concession, on le paye plus cher après. Voilà. Et donc, il devrait y avoir une solidarité internationale très claire. Je pense notamment, par exemple, aussi à d'autres pays où les chrétiens sont, y compris dans des pays en Afrique aussi maintenant, où il y a des persécutions. Voilà, ça c'est la première chose. Ce qui s'est passé en Espagne, malheureusement, je pense qu'ils sont aussi, d'ailleurs, ils l'ont subi déjà, ils l'ont subi dans leur chair. Il y a eu des attentats terribles, rappelez-vous, en Espagne. Ils ont maintenant une vague de terrorisme islamiste low cost, parce que c'est ça, qui n'est pas finie. Parce qu'on a parfois tendance à penser que c'est passé, que c'est derrière, que c'est un individu isolé. Non, c'est pas vrai. C'est pas fini. Il faut vivre avec, malheureusement.
C'est pas fini. Il faut vivre avec. Et c'est pour ça qu'il faut d'autant en parler davantage, puisqu'on a, le sentiment, c'est vrai, que ça a été comme un fait divers, cet attentat en Espagne.
Il y a une cécité volontaire de ce que j'appelle l'islamo-gauchisme. Ça, c'est, voilà, c'est...
Bah, je suis là, donc ce n'est pas l'islamo-gauchisme, c'est l'islamisme.
Alors, je vais vous décevoir, je lui dirai, je ne vous considère pas comme un islamo-gauchiste.
Non,
clairement.
Comme un gauchiste,
voilà,
oui.
Je suis désolé, voilà. Donc, certainement pas, voilà, exactement. Je me contente du suffixe. Bon. Donc, voilà. Donc, non, il y a, plus sérieusement, non, il y a une sorte d'alliance objective de la radicalité. Mm-hmm. Et cette alliance objective, elle a des ennemis. Et ben, les ennemis, ce sont notamment les juifs et les chrétiens. Voilà, c'est tout. C'est ainsi.
Toujours.
Non, je pense que il y a une. Bon, d'ailleurs, c'est le débat qui va avoir lieu dans les mois à venir, ce que j'appelle la reconstruction d'une gauche, d'un socialisme républicain. Il y a effectivement une dérive de courant qui. Idéologiquement se font piéger parce que, alors je connais ce mécanisme, c'est tout ce qui est contre l'impérialisme américain, quelque part, est notre allié. Et à partir de là, on est amené à faire des concessions. On fait ce qu'on appelle des accords croisés. C'est comme ça que ça a été théorisé. Je pense que ça, c'est une erreur. C'est une stupidité totale. Je pense que je suis effectivement contre un certain nombre ce qu'on appelle anti-impérialiste. Mais moi, jamais je vais marcher avec des islamistes. Mais... Je pense même qu'ils ont parti liés, parfois. On le voit bien. Oui. Les Américains ne sont pas forcément ceux qui ont été les plus vaillants dans le combat contre l'islamisme. Ils s'en sont accommodés, puis un jour, ça s'est retourné contre eux. Mais voilà. Donc, je pense que ça, cette partie de la gauche qui fait ça, se trompe et surtout pervertit l'esprit de la gauche. Parce que l'esprit de la gauche, il est laïque, il est républicain, et comme il est laïque, il permet aux religions de s'exprimer, de vivre.
Gilles Oulam, pour conclure sur ce...
Oui, je n'ai pas exactement cette même grille de lecture. Quand je vous disais les juifs et les chrétiens, je sous-titrais dans ma tête, en vérité, l'image des occidentaux. Je vous ai parlé des chrétiens qui sont considérés comme les vieux blancs. Il y a dans cette détestation... le goût, ce que j'appelle la dilection pour l'altérité, pour l'autre. Alors, toutes sortes d'autres. Bon, c'est le gauchisme moderne, alors l'autre, ça va loin, l'autre. Hein. Mais profondément, pour ne pas prononcer le mot, il y a du racisme anti-blanc.
Voilà. Non, mais c'est une culpabilité. Bon, je ne suis pas en total désaccord avec ce que dit Gilles William, il y a une culpabilité par rapport au fait que on a... l'impérialisme Et donc aussi pour une part l'homme blanc a perverti la planète, et donc il y a une culpabilité, et donc il y a une gentillesse qui est accordée avec un a priori positif à tout ce qui, à un moment donné ou à un autre, est dans une situation de révolte contre ce système-là. Mais la révolte, elle n'est pas en soi porteuse d'espoir, elle n'est pas porteuse d'une idéologie de gauche. Voilà. Et en général, vous savez, cette erreur, elle a été commise une première fois de manière très grave en Iran. Quand le Shah est tombé, une partie de la gauche a considéré que la chute du Shah, qui était une dictature, on devait s'acoquiner avec les ayatollahs, parce qu'ils avaient aidé à faire tomber. Et on a même, dans un premier temps, dit « c'est formidable » et tout. Puis après, on s'est rendu compte qu'ils étaient pires que le Shah. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas de chemin possible. D'ailleurs, quand ils prennent le pouvoir, les premiers qui tuent, c'est les gens de gauche.
À la une de l'actualité également, messieurs, encore et toujours la réforme des retraites et cette décision de certains maires, à commencer par la maire de Paris, à l'appel du communiste Fabien Roussel, eh bien des mairies vont fermer quelques heures le 31 janvier afin de permettre aux agents de manifester. Alors c'est une mesure qui ne plaît pas au ministre du Travail parce que cela pose un problème de neutralité. Alors qu'est-ce qu'en pensent les Français? On les écoute, vous nous donnez votre avis ensuite.
Je trouve que c'est une belle preuve de solidarité avec les citoyens.
Il y a des autres services qui ont des urgences. Mais moi, je viens de la mairie pour le service RSA. Donc je pense que le service de la mairie ne devait pas fermer.
Je pense que par solidarité, pour une seule journée, bien sûr, ça peut être justifié qu'ils ferment le service. Bien sûr, ça va peut-être gêner certains usagers.
De toute façon, ça va être une journée de grève où rien ne va fonctionner. Donc,
Moi, je suis pour les grèves, donc je trouve ça tout à fait normal qu'ils permettent aux gens d'aller se battre pour leurs droits.
Alors, pour Olivier Dussopt, le ministre du Travail, Anne Hidalgo confond les services municipaux avec une annexe du Parti Socialiste. Je me tourne vers vous, du Parti Socialiste, Julien.
Vous me permettez.
Alors, c'est le cas où
j'aimerais bien que le Parti Socialiste ait autant d'annexes, surtout en ce moment. Ça serait signe plutôt d'une bonne santé. Non, mais je veux dire, moi, je suis plutôt d'accord avec la dame qui disait, de toute manière, il va y avoir grève. Alors, ça ne sert à rien de... Voilà, il y a une grève massive. Bon, la mairie de Paris veut montrer sa solidarité parce qu'il n'y aura personne dans les mairies. Quoi. En tous les cas, il y aura très peu de monde dans les mairies. Bon, voilà, ça ne me gêne pas.
Ça. Mais ça ne pose pas un problème de neutralité, au fond?
Ça a été fait des dizaines de fois, cher ami.
Oui, mais moi, ça pourrait être fait mille fois que je n'accepte pas le principe. Ce principe, il me révolte. Alors, j'ai entendu une socialiste qui disait que c'était, parlant de Mme Hidalgo, que c'était une décision très courageuse. Je vous avoue que j'ai bien cherché... Je ne vois pas tellement où est le courage.
Alors, non, si, parce qu'elle savait que vous alliez être contre.
Ah oui, alors là...
C'est, donc, comme elle savait que vous alliez être contre, elle disait c'est un courage d'affronter...
Elle est même intrépide, alors, dans ce cas-là. Voilà. Mais écoutez, d'abord, je ne vois pas où est la légalité.
Il n'y a pas d'illégalité sur ça.
Non, mais je suis en train de penser tout.
Oui, je sais que vous êtes en train de penser, mais c'est pour ça que je demande votre pensée, je vous dis qu'il n'y a pas d'illégalité. C'est la maire qui peut décider de fermer un certain nombre de ses services. C'est ça, vous pouvez l'attaquer dans le Conseil d'État, je ne suis pas sûr que vous allez gagner. Hein.
Écoutez, ça ne sera pas la première affaire que je perds.
Non.
Bien.
Mais vous pouvez tenter.
Donc,
nul n'est tenu à la réussite.
Ceci posé, je ne sache pas que tout le personnel municipal soit d'emblée opposé à la réforme. Qui est un maire de gauche pour décider lui-même que tous les services vont fermer? Pardon, mais moi je m'interroge au-delà du principe sur la légalité, et en tous les cas, c'est quelque chose sur... ça va pas m'empêcher de dormir.
D'abord, je pense qu'il y a un problème d'organisation, c'est-à-dire que c'est des grèves qui sont massivement suivies maintenant. Et donc c'est compliqué, y compris, de maintenir ouvert un certain nombre de services quand il n'y a quasiment plus personne pour les tenir. C'est aussi une réalité. Et donc je pense que la maire de Paris a aussi tenu compte de l'impact qu'allait avoir cette grève. Et d'ailleurs, si vous voulez mon avis, à part des situations d'urgence... Il n'y a pas grand monde qui va se rendre à la mairie.
Donc les citoyens vont pâtir de cet engagement politique.
Vous êtes gentil, mais moi par exemple... quel que soit
ce que
pensent les collaborateurs, mon cabinet, il ne va pas fermer ce jour-là. Non. Et peut-être qu'ils vont arriver en retard, mais ils ne vont pas fermer. Je ne vais pas décréter que le cabinet va être fermé sous prétexte qu'il y a une grève SNCF.
D'accord, mais si vous n'avez plus vos employés, vous allez faire quoi? C'est vous qui allez recevoir?
Ils arriveront en retard peut-être, mais qu'ils se le disent, le cabinet restera ouvert, par principe.
Donc c'est Gilles William qui, à 8h, ouvre son cabinet mardi. Donc précipitez-vous si vous avez des affaires pour vérifier s'il est là.
Mais est-ce que les citoyens doivent pâtir d'un engagement politique, Julien?
Les citoyens, ils pâtissent d'abord de la réforme des retraites. Et donc c'est d'abord ceux qui font cette réforme et qui en portent la responsabilité, qui savaient que ça allait créer des conflits, alors que les jours avançant, on se rend compte que cette réforme, finalement, elle va accoucher de quelque chose qui n'est pas nécessaire. Bon, voilà. Donc je vois pourquoi on va maintenant pointer la responsabilité sur ceux qui sont... C'est pas un plaisir pour beaucoup de gens de faire grève, hein. Vous ne voyez pas que c'est une rigolade.
Vous noterez que M. Drey est solidaire de Mme Hidalgo ce soir.
Non, je suis solidaire de tous
nous
ceux
qui... Nous le notons
vont.
Avec...
Ouais. Je suis... Bon, ça ne me gêne pas. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai des problèmes sur la gestion de la ville de Paris, mais c'est autre chose. Mais je ne fais pas d'a priori individuel ou un tutu personné. Mais je pense que le problème qui est posé aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous avez une réforme qui est très impopulaire. Et d'ailleurs... C'est intéressant. Vous avez essayé, je suis certain, quand vous avez fait votre reportage, vous essayez d'avoir quelque chose d'équilibré. Mmh. Vous avez très peu de gens qui ont dit non, on les condamne. Parce que les gens, ils disent oui.
Écoutez, vous êtes bien. Qu'une majorité de Français, à tort ou à raison, soit opposée à cette réforme, je n'en disconviendrai pas. D'ailleurs, mon expérience me laisse à penser qu'en général, les Français ne sont pas favorables aux réformes.
Jamais.
Bon, premièrement.
Théorie.
Deuxièmement, d'après les sondages, il y a quand même un peu plus de 30% de Français qui sont favorables à cette réforme. C'est pas rien non plus. Ça n'est pas tout, mais c'est pas rien. On n'est pas obligé non plus de les mépriser, ces gens-là.
Personne ne les méprise. Ils pourront pas aller. Les services sont fermés ce jour-là parce que de toute manière, il y a grève. Voilà, c'est tout.
Allez, il nous reste un peu plus de 4 minutes. Je voulais vous entendre à présent.
Non, c'est peu.
Sur cette pétition qui circule contre une troisième guerre mondiale dans le Donbass. Et à l'origine, c'est l'avocat Arnaud Klarsfeld. Ces derniers mois, notamment sur les réseaux sociaux, il appelle à la conclusion d'une paix négociée entre les Russes et les Ukrainiens. Et il s'est confié à nos confrères de Valeurs Actuelles. Écoutez-le.
Il n'y a pas besoin de déclencher une troisième guerre mondiale pour le Donbass. Hier, j'entendais sur LCI un ancien ambassadeur de France à Moscou, M. Blanche-Maison, qui disait « si l'Ukraine s'écroule, eh bien il faudra que l'OTAN envoie des troupes ». M. Blanche-Maison est un homme raisonnable, intelligent, centriste, mais il est prêt à déclencher une troisième guerre mondiale alors que les pays européens n'en veulent pas d'une troisième guerre mondiale. Ils en ont connu deux. Ça a été deux fois un suicide de l'Europe. Il n'y a pas besoin d'un troisième suicide européen et de millions de morts pour une région dont personne ne connaissait même l'existence, qui est moitié russe, moitié ukrainienne. Les deux régimes sont fanatiques. Les Ukrainiens sont tout aussi fanatiques que les Russes, qui trouvent un compromis territorial. C'est quand même pas compliqué. Et c'est de la responsabilité des États-Unis et de l'Europe de parvenir à un compromis.
Il y a d'autres voix dans ce sens qui se sont élevées. Je pense notamment à Julien Aubert, président d'Oser la France, vice-président et membre du comité stratégique des Républicains sur Twitter. Il dénonce la livraison d'armes de l'Occident. Pour lui, c'est irresponsable. La France a tort de s'aligner. Elle devrait rester neutre comme en Irak. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles William ?
Franchement, j'aime beaucoup Arnaud Klarsfeld et je suis sincère. Je partage avec lui le peu d'enthousiasme que m'inspire une partie du régime ukrainien. Il a raison de dire qu'il y a encore des vestiges tout à fait fumants du pro-nazisme et je n'aime pas effectivement cette ukrainomania fantastique. Bon, effectivement, il y a des choses à... je pense que la Crimée devrait définitivement rester russe, comme elle l'a été la plupart du temps. Sur le Donbass, ça se discute, mais il y a une chose qu'on ne peut pas dire quand même. C'est M. Poutine qui a agressé avec bestialité l'Ukraine, pas seulement pour prendre le Donbass, il voulait aller jusqu'à Kiev. Et d'autre part, indépendamment des déclarations effectivement assez discutables de M. Blanche-Maison, pour l'instant, on se contente de livrer des armes, nous ne sommes pas co-belligérants. Donc Arnaud exagère.
Nous ne sommes pas co-belligérants, Maître Carcher exagère.
J'ai oublié ma raison sur une chose, il y a un agresseur et un agressé, on ne peut pas faire comme si on les renvoyait dos à dos. Et il y a un agresseur qui, par ailleurs, prend aujourd'hui dans ses discours, dans son comportement, un tour extrêmement dangereux et grave. Alors, après, il faut effectivement défendre la souveraineté des Ukrainiens, il faut les aider. Et c'est vrai qu'au départ, M. Poutine a pensé que ça allait être une promenade de santé, certainement parce que son régime était tellement corrompu qu'il n'avait pas les informations sur la réalité de ce qui se passait. Ouais. Ça, c'est sûr. Maintenant, la question qui est posée, qui est vrai et qu'il faut quand même se poser, c'est quand on fait la guerre, il faut faire attention de ne pas se laisser entraîner par la guerre elle-même. Il y a des buts, ce qu'on appelle les buts de guerre. Donc il y a un moment donné où il faudra avoir, et je pense que les États doivent avoir, et notamment l'Europe, doit avoir une discussion avec l'Ukraine. Parce que sinon, vous rentrez dans une escalade, qui est une escalade jour après jour. Vous êtes, dès que vous commencez à émettre un doute, vous êtes traité de poutinien, de complice de Poutine. Voilà, Monsieur Brunet va à ce moment-là nous tailler un costard à 10h du soir à la télé. Bon, et on ne peut plus débattre. Et moi, je m'excuse, mais il y a un moment donné où on peut basculer, à tout moment, on peut basculer dans autre chose, parce qu'on est sur le fil du rasoir. Et là, donc, la maîtrise de des buts de guerre, de jusqu'où on veut aller, c'est une discussion qui va avoir raisonné avec les Ukrainiens, mais qui n'est pas un stupide.
Et la peur aussi, de la guerre de nombreux Français, certains téléspectateurs qui nous regardent. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir...
Oui, faire une petite...
Allez-y, vous avez...
Non, mais je me suis trompé tout à l'heure et je m'en excuse auprès d'elle. J'ai appelé Mme Sylviane Agacinski, Sophia
et Cécilia. Voilà, correction faite. Correction faite.
Merci
Julien Drey. Merci Gilles-William Golnadel. Et j'ai de la chance, je vous retrouve demain soir. Je suis ravi pour ça se discute.
C'est un moment exceptionnel. Partagé.
Ah, l'actualité.
Arrivé à sortir aussi Gilles-William de chez lui le samedi soir.
En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.cnews.fr. Dans un instant, l'heure des Pro 2 avec l'excellent Julien Pasquet. L'actualité continue. Très belle soirée sur notre antenne.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.